Au commencement, il n'y avait que le néant. Puis, le Big Bang créa l'univers. Mais après plusieurs milliards d'années, de mystérieuses ondes troublent l'ordre. Au fin fond de la galaxie, non, juste un peu à droite, oui, voilà, là. Le chaos prend sa source dans Big Bang le samedi.
Bonjour à toutes et à tous, fêtons la nature, c'est l'heure de Big Bang
Station.
Nous sommes sur les...
88 de la bonne FM, monsieur, dame, toute personne confondue.
En Ile-de-France et en simultané sur Android, Periscope, Facebook, Twitter, Internet, sur notre appli, notre chaîne, notre page, notre compte Big Bang
Station.
L'émission est rediffusée sur les Muses de Paris le dimanche à 20h, sur Gimme Radio, demain dimanche à 16h sur Precious Radio, sur Fréquence Magique lundi à 19h, sur NG Radio le mardi à 20h, sur Fréquence Zik le mardi à 22h, sur Radio Balagne, sur Radio MS à 21h, sur Radio Vintage le jeudi à 16h, et partout et tout le temps ailleurs sur Big Bang
Station.
Big Bang Station, c'est un thème d'actualité auquel les chroniqueurs news, culture, histoire, record devront coller le plus possible. Aujourd'hui, nous consacrerons cette émission à la fête de la nature. Petit Manu nous expliquera l'utilité de cette fête. Bonsoir.
Bonsoir Didier, bonjour, bonsoir à vous tous. Très heureux, tout happy, tout node. Enfin, je parle un peu en anglais, de vous retrouver. Effectivement, bah, je vous parlerai de ce sujet-là. Et moi, je vais te dire une chose Didier, quand j'ai préparé ce sujet-là, moi j'ai appris ce que c'était. Franchement, j'avais l'impression de retourner à l'école, comme les étudiants, bah, je savais pas, et plus je découvrais, je faisais, plus je découvrais. Comme quoi, il n'y a pas d'âge, on en apprend tous les jours.
Et PA nous parlera d'un documentaire sur Greta Thunberg.
Ah oui, alors ce soir, bah, je vais vous parler d'un documentaire qui va sortir dans très peu de temps et qui va concerner en tout cas la vie d'une figure incontournable de l'environnement.
Kevin reviendra en musique sur le thème de la nature avec son quiz.
Bonsoir Didier, bonsoir à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver, chers auditeurs et auditrices, pour cette nouvelle saison de Big Bang. On n'a qu'une seule vie à vivre et qu'une seule nature. Cette phrase ne vient pas de moi, mais d'un chanteur que nous allons écouter tout à l'heure.
Vincent traitera de la culture de la nature. Renan II est le petit nouveau avec une chronique politique.
Ah, c'est intéressant, on a hâte de découvrir, toi.
Bien. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de m'accueillir dans le vaisseau de Big Bang Station. Aujourd'hui, pour ma première chronique politique dans l'émission, nous allons aborder les droits de la nature, car dans plusieurs pays, la nature a des droits. Un sujet passionnant dont je vais essayer de vous dépeindre les limites en quelques minutes.
Voilà, Renan II, le petit nouveau, qui nous fait aussi une chronique cinéma.
Eh ben comme quoi, il a le bon poupe, hein. C'est bien, c'est formidable Didier.
Pour la chronique cinéma, nous allons nous intéresser à deux films aujourd'hui, La Tortue Rouge, un film d'animation politique, et Le Syndrome du Titanic, réalisé par Nicolas Hulot et Jean-Albert Lièvre.
Et nous avons une artiste scénographe de jardin dans nos studios. Bonsoir Camité.
Bonsoir.
Bonsoir, très content de te connaître. En
fait. Merci.
Ça fait plaisir.
Merci.
Quant à moi, j'essaierai de vous faire deviner les news incroyables mais vraies dans les...
Apolites.
Et l'émission est réalisée par moi.
Didier.
Ça va Didier, est-ce que tu te sens bien? On est en direct, ça va bien?
Eh ben écoute, on va faire avec, hein.
Bah oui, comme on dit, sans forgeant qu'on devient forgeron.
Et d'ailleurs, on va commencer cette émission en s'échauffant, en jouant aux...
Apolites.
Avant de rentrer dans le vif du sujet.
Les questions que personne ne se pose.
Qu'avait cet homme de particulier dans sa veine?
Des excréments.
Quelque chose de sexuel?
Non. Qui vous les expose?
De la merde.
Non.
Décidément.
De l'urine.
Non.
Allez, on commence. Où, petit Manu? Devine, c'est près de la France.
Ah, ben je pensais que c'était aux États-Unis. Je me suis un peu trompé.
On mange du chocolat.
En Suisse.
Exactement.
Il y a même un lac qui s'appelle le lac Léman.
Eh bien, en Suisse, un homme porte plainte contre un hôpital et gagne. Pourquoi a-t-il porté plainte, à votre avis?
Ah, on lui a volé quelque chose?
Non, c'est pour des nuisances.
Des nuisances? C'est pas
nuisances par... sonores?
Oui.
Ah, ah oui.
Parce qu'il y a... Mais pourquoi, qu'est-ce qu'il y a dans l'hôpital qui fait autant de bruit?
Quand les opérations,
pas, c'est pas quand les bébés qui pleurent?
Non.
Ah non, non. Ah non.
Non, qu'est-ce qui peut faire autant de bruit?
La clim.
Ah oui?
Non.
Un appareil?
Non, c'est quelque chose d'humain.
C'est pas les gens?
Des accouchements?
Non, je l'ai dit.
Exactement,
ah bon,
c'est des accouchements.
Ah oui.
Il a porté plainte parce que les femmes criaient trop pendant les accouchements.
Ah.
Et
voilà, c'est pas vrai.
Devinez, il a gagné.
Ah, ben, mais c'est étonnant. Cool.
Il a gagné, l'hôpital est obligé de fermer ses fenêtres maintenant.
Oh, comme quoi? Quoi
pour que plus pas qu'on ça... entende les femmes hurler pendant leur accouchement.
Puis je pense qu'après, le son il ne passe pas, quoi. C'est bien. C'est... Ça n'arrive pas tous les jours. Hein.
Voilà, allez, on va au Royaume-Uni. Une résidence a été transformée en cinéma drive-in. Mais c'était une résidence particulière. Laquelle?
Voilà.
C'était une résidence particulière, c'est-à-dire elle avait, il y avait des objets insolites.
Non. Non, c'est une belle résidence.
C'est pas pour une résidence pour se marier, ça fait matrimonial peut-être.
Non.
Je sais pas, j'ai un peu.
Oups. Une belle résidence.
Ou alors ils faisaient peut-être des soirées où ils dansaient. C'était pas, ça fait pas des.
Je dirais une résidence royale.
Ah, c'était peut-être où il y avait les rois, des soirées un peu.
Alors pas les rois, mais
c'était pour les riches.
Les riches.
Oui, mais.
C'est pour
les milliardaires.
C'est
la résidence de qui à votre avis?
Est-ce qu'il est connu?
À Buckingham Palace.
Voilà. Alors presque, donc c'est la résidence de des résidences de la.
La reine d'Angleterre.
Eh ben oui, c'est une des résidences de la reine d'Angleterre.
Et qui a même des très beaux chapeaux.
Elle a des très beaux chapeaux, oui.
Voilà, et
elle a aussi des très beaux châteaux.
Elle a des très beaux châteaux, évidemment. Et vous pouvez aller au cinéma dans une de ses résidences. C'est 35 euros, je crois, le ticket de cinéma. Bon, c'est cher et c'est pas cher.
Ah ouais, mais on doit bien sortir à elle, j'imagine.
La reine ne sera pas là. Hein.
Ah bah non.
Mais vous pouvez aller au cinéma dans une de ses résidences.
En tout cas, c'est toujours bon à savoir. En tout cas, notre cher ami Stéphane Bern, qui était là, il serait très content, heureux. Lui qui parle Monsieur Patrimoine, il serait fort heureux, quoi. On doit pas se sentir mal à l'aise. C'est vrai que c'est une sacrée expérience inoubliable, je pense.
Allez, on part en Suède. Il y en a des toutes petites dans les rues de Suède, dans les coins de rue. De quoi s'agit-il?
C'est pas des caravanes?
C'est des toutes petites miniatures.
Des abreuvoirs pour les chiens?
Non.
Ou les water closets?
Ce qu'on a nous en grand, en petit.
Les water closets, les.
Non.
Ce qu'on a nous en grand, en petit.
Hein? Les voitures?
Non, c'est plus grand qu'une voiture.
Des immeubles?
Pas un camion?
Non, on vient d'en parler. C'est les pas enfants, une résidence, mais c'est.
Une maison?
Oui, une petit maison Manu, c'est une maison.
Alors là, j'ai dit au pif, franchement, j'ai dit ça.
Alors, il y a des maisons miniatures dans les coins de rue de Suède, des petites maisons, c'est pour les souris.
Ah.
Et c'est l'œuvre de collectif, il y a plusieurs artistes, d'un collectif qui s'appelle Anonym House.
Ah, jeu en anglais, ça se comprend, quoi.
Pour mouse, souris.
Eh ben, comme quoi, hein.
Donc, si tu vois une petite maison dans les rues de Suède, c'est pour les petites souris.
Ah ouais, bah pourquoi pas, mais c'est comme quoi, il y a des artistes partout, mon cher Didier.
Et elles ont leurs petits morceaux de gruyère.
Ouais, exactement.
Ah, je sais pas si elles mangent dedans, mais.
Ouais. Moi, je connais mieux, quand on était plus jeunes, on a tous été élevés à Titi et Grobinet. Enfin, pourquoi pas, après. Qui n'a pas connu ce dessin animé?
Allez, il est grand temps de rentrer dans le vif du sujet, n'est-ce pas Manu?
Eh oui, donc je vais tout donner l'explication. Qu'est-ce que c'est la fête à la nature?
C'est le thème de cette émission, la fête de la nature, les explications par petit Manu.
Exactement.
Chaque semaine, il crypte l'actualité.
Un président américain, monsieur Barack Obama. Donald Trump. Il arrive.
Milton.
David Bouillet. Joe Cocker. Justin Timberlake. Lady Dada. Sakina. Oui, Kendrick.
Retrouvez Petit Manu et son grand dossier journalistique.
J'ai mangé tous les travaux.
Quoi?
Alors, la fête à la nature, comme moi, si vous avez appris, en plus on a une grande artiste spécialiste, je vais me faire taper sur le doigt si je me trompe, je vais vous expliquer. Donc c'est l'avis aux organisateurs et organisatrices, c'est la 14e édition de la fête de la nature qui se tiendrait partout en France du 7 au 11 octobre 2020. Donc c'est dans un mois prochainement. Quel est le thème en 2020? C'est le prénom de la graine. Partout en France, il y a des citoyens, des associations, des mairies, des écoles, entreprises, etc., etc., qui agissent concrètement pour préserver et favoriser la biodiversité. Donc, ça se trouve, il faut bien savoir, toute personne confondue, ça vous intéresse, ça vous tient à cœur, du 7 au 11 octobre, et c'est le partenariat avec le Congrès mondial de la nature. Alors, je vais vous dire, c'est UICNC qui se tiendra à Marseille, la fête de la nature en 2020, qui proposera de vivre dans toute la France, sur les terrains, les résultats positifs et visibles de ces milliers d'actions, des sauterelles et papillons de retour au jardin, aux espèces menacées ou oubliées qui reprennent vie au cœur des grands espaces naturels et cultivés. Est-ce que j'ai donné une bonne explication?
On va demander à Qualité, qui est artiste scénographe de jardin. Alors d'abord, c'est quoi artiste scénographe de jardin?
Alors je suis artiste parce que je travaille sur la matière végétale en fait. Je crée des portraits de fleurs avec un principe de scan que j'imprime ensuite sur différents supports. Et scénographe de jardin, pourquoi ? Parce qu'en fait, je crée des jardins dans lesquels je mets en scène le végétal, voilà, avec la lumière, les volumes, etc. Donc c'est vraiment une mise en scène dont je tiens compte des lieux, de la lumière, du positionnement. Après, voilà, j'observe énormément ce qui se passe. Et puis ensuite, j'essaye de choisir des végétaux qui s'intègrent particulièrement à l'espace qu'on m'a demandé d'aménager. Et surtout, j'essaye de respecter complètement et de faire émerger ce qu'on appelle l'esprit du lieu et de créer un lien entre le jardin, l'espace et la personne qui va l'habiter. Parce que c'est très important de créer un lien entre le vivant et les habitants.
Tu es aussi présidente de l'association Via Paysage.
Oui, absolument, oui, qui est une association qui intervient sur le territoire, notamment à Saint-Ouen depuis 2014. Nous avons initié le mouvement des incroyables comestibles à travers une expérience que nous avons faite d'un jardin partagé que nous avons créé à l'occasion d'une manifestation qui s'appelait Traversée d'art. Et en fait, nous avons créé ce jardin qui était un jardin public un peu délaissé, qui était assez moche et qui était pas très apprécié. Nous avons recréé un nouvel espace avec les habitants, les associations, les élèves du lycée Blanqui, de façon à créer un lieu plus convivial et dans lequel les gens se sont réappropriés l'espace en fait, et où ils peuvent maintenant, il y a des arbres fruitiers, il y a des plantations vivrières également, les gens du quartier viennent et cultivent leurs propres végétaux et c'est partagé avec tout le monde.
C'est quoi un jardin éco-poétique ?
Alors, pourquoi éco-poétique ? Parce qu'en fait, ce jardin est axé sur la biodiversité végétale et artistique. Pourquoi éco-poétique ? Parce que l'écologie, on travaille beaucoup sur l'écologie et pour nous en tout cas, on essaye d'initier les gens à l'écologie de façon à créer un état de conscience en fait. De façon à ce que les gens prennent conscience de la nécessité d'avoir une écologie active et créative de manière à recréer un lien avec la nature et à respecter vraiment, vraiment la nature, à retrouver les écosystèmes, les biotopes et essayer de réparer un peu le mal qu'on lui fait. Poétique, pourquoi ? Parce qu'effectivement, la poésie est très importante comme acte créatif dans les jardins. D'après Baudelaire, voilà, la poésie est le creuset de la beauté qui nous entoure. Donc effectivement, on essaye à travers l'écologie comme acte créatif, l'écologie pratique, de faire émerger la beauté de ce qui nous entoure et la beauté des lieux.
Moi, je trouve ça extraordinaire. Je trouve que Dieu, on est une grande artiste, d'une grande sensibilité.
Non, la grande artiste n'exagère rien.
Ah non, mais je dis non, ce que non, je pense, non. Je ressens. Mais une question que je voulais demander.
Mais je suis
c'est de l'art, hein,
voilà.
C'est de l'art.
Ah, mais complètement, le jardin est une œuvre, voilà. De toute façon.
Hein. Mais la question que je voulais demander, moi, je trouve ça
c'est une œuvre vivante.
Je trouve ça extraordinaire. Mais la question que je voulais demander, est-ce que, je trouve ça très bien, vous mettez de la musique ? Parce que des fois, par exemple, il y a de la musique pour être calme, pour se calmer. Est-ce que vous mettez de la musique parfois en créant, par rapport aux gens, où se trouve, on sent. Vous mettez de la musique aussi peut accompagner ou ça
Moi, je dirais qu'il y a la musique du vivant, ce qui est un peu une espèce de féminisme. Mais disons que oui, on crée des fontaines où il y a de l'eau qui coule. On s'attache à effectivement, à faire écouter aux gens le bruit des feuilles dans les branches, par exemple. Maintenant, de la musique proprement dite.
Qui accompagne, je sais, parce que...
Non, pas précisément, mais non, c'est pas quelque chose que nous faisons, ça.
Non, je dis ça parce que je trouve que ce que vous faites, il y a une très bonne philosophie, et c'est harmonieux, et je trouve ça vachement intéressant.
Mais disons, si tu veux, effectivement, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est le jardin, c'est aussi comme une partition musicale.
Ah bah, je ne m'étais pas trompée.
Voilà. Oui, absolument.
Inconsciemment, j'ai dû poser une bonne question, mais je sais pas, c'est un flash, une sensation, ne sachant pas. Bah, merci beaucoup.
Et qu'est-ce qu'une oasis nature ?
Alors, nous, ce jardin, le jardin éco-poétique du 16 bis, qui se trouve donc à Saint-Ouen, fait partie de l'association Humanité et Biodiversité, qui est une association très importante qui milite pour la biodiversité, qui est parrainée par Hubert Reeves. Et en fait, nous faisons partie du réseau des oasis nature, qu'il y en a partout en France. Et en fait, c'est des lieux, effectivement, où il y a une charte à respecter, où on ne doit pas mettre de produits chimiques, on doit utiliser le paillage, on doit respecter vraiment au plus près la nature, en fait. Donc, il y a une charte précise à laquelle on doit, on doit, qu'on doit respecter pour être labellisé Oasis Nature.
Comment on peut ramener des jardins en ville par les murs végétaux, par des toits potagers?
Oui, moi je dirais que la végétation en ville commence par tout un ensemble d'actions qu'on peut entreprendre, justement par les habitants eux-mêmes au pied de leurs immeubles, etc., qui puissent, même sans demander la permission, créer des petits potagers, mettre des petits massifs fleuris, etc. Et bon, il y a plusieurs façons de végétaliser la ville. Ça peut être les murs végétaux, mais effectivement, bon, Patrick Blanc, qui est un grand spécialiste des murs végétaux, a fait des murs végétaux. Mais bon, l'inconvénient, c'est qu'un, ça coûte très cher, et deux, c'est très difficile d'entretien. Mais disons qu'on peut s'en inspirer pour effectivement créer, par exemple, faire pousser des grimpants sur les murs des maisons, que ce soit du lierre ou autre, par exemple. Après, il y a un paysagiste japonais qui a créé ce qu'on appelle des mini-forêts. On peut implanter dans la ville, donc
des mini-forêts.
Ah bon, mini-forêts. Oui, c'est un concept qui a été, voilà, dont on parle pas mal ces temps-ci. Ce paysage japonais donc incite les communes et les villes, et c'est ce que nous on va essayer de faire à Saint-Ouen, parce qu'on a la chance d'avoir un nouveau maire qui est assez à l'écoute de la végétalisation et du fait que les gens ont besoin de renouer un lien avec la nature. Et donc effectivement, ça veut dire qu'on va mettre des endroits où il y a du béton, ben, replanter des arbres voilà, en quantité un petit peu partout. Et ça, on doit être accompagné évidemment des communes et des villes pour faire ça.
À Paris aussi, hein, notamment à La Chapelle.
Oui, absolument.
Je ne sais pas si tu as entendu.
Il y a eu la coulée verte qui a été réhabilitée de part et d'autre qui traverse la capitale. Et en fait, il y a ensuite les chemins de fer, les anciens chemins de la SNCF qui sont dans Paris, hein, qu'on appelle la petite ceinture. Bon, depuis une dizaine d'années, c'est quand même, ils sont très, très actifs. Oui. Et la ville a repris, les villes reprennent le flambeau, en fait, hein, essayent effectivement de faire en sorte que ça devienne des lieux à vivre. Et justement, on a modifié ces usages de manière à créer des lieux conviviaux où les gens se retrouvent autour de la nature pour apprendre, effectivement, pour recréer un lien avec la nature. Parce qu'on voit, par exemple, les gosses. Pour eux, c'est comme le poisson, c'est le poisson en carré. Les salades, ils ne savent même pas comment ça pousse.
C'est au McDo.
Voilà, exactement. C'est dans le McDo.
Dans le sachet,
voilà. Donc, c'est vraiment important que les gens réapprennent, en tout cas les enfants, qu'on réapprenne aux enfants à la nature et comment ça fonctionne.
Oui, j'ai l'impression, parce qu'en t'entendant parler, Camille, j'ai l'impression qu'il y a une véritable prise de conscience parce que malheureusement, il y a beaucoup trop de pollution et ton art, ce que tu fais, j'ai l'impression que les gens, ils prennent conscience, quelque chose de nouveau, on doit respecter la nature. Je sais pas, on doit, waouh, c'est quelque chose de bien et on fait pas toujours attention, chose qu'on devrait peut-être faire tous les jours dans la vie.
Oui, je j'ai l'impression qu'on a suffisamment d'exemples du sabotage de la nature, des écocides, etc. À l'heure actuelle. Bon, on n'entend parler que de ça partout, avec la jeune Greta Thunberg, qui est absolument formidable d'ailleurs, etc.
On en parlera tout à l'heure, d'ailleurs.
Voilà, dont on se moque beaucoup, parce qu'il y a des cons en circulation partout qui se moquent de tout et n'importe quoi. Et elle, ce qu'elle fait, c'est vraiment formidable. Bon, on ne parle pas de Nicolas Hulot.
Ah ouais, et même Ségolène Royal, à un moment, elle s'inquiétait aussi. Hein.
Oui, voilà. Enfin, bon. Enfin. Bref, passons. Par contre, oui, il y a des gens comme Hubert Reeves, Pierre Rabhi aussi, Cyril Dion qui est absolument formidable. Enfin bon, il y a beaucoup d'initiatives à l'heure actuelle, d'initiatives citoyennes, parce que les gens, il y a une conscience qui justement, un état de conscience qui est en train de s'établir, ce que Pierre Rabhi appelle un état de conscience. Il faut qu'on prenne conscience de ce qui se passe si on veut changer les choses, effectivement.
Ah, complètement.
Et Pierre Rabhi parlait c'est Cyril Dion qui parlait de ça, du colibri, ce qui est un petit oiseau, un tout petit oiseau, et il y a la fameuse anecdote que tout le monde connaît, mais je vais la répéter ici parce qu'elle est très jolie. Il y a un incendie dans la forêt, et le colibri qui est donc tout petit, puis qui va rechercher un peu de flotte et puis qui met de l'eau sur l'incendie. Et son pote, il lui dit, mais enfin, c'est complètement con ce que tu fais, t'es tout petit, ça va rien faire. Il dit, oui, mais si chacun fait sa part, ça va faire quelque chose.
Oh là, ça fait réfléchir hein, quand on entend ça. Oh là là.
Ah, merci Camille. Ah,
avec
on donnera
plaisir.
Bien sûr toutes les dates. On continue avec la nature, mais en musique avec...
Notre cher ami Kevin de retour.
Et c'est parti pour le quiz.
Non, quiz. Attends. Comme le cheese.
On cherche à comprendre encore la règle du jeu. Je vais me porter sur un truc.
Mais
Et c'est donc parti pour un quiz musical spécial. Les quatre titres qui vont être diffusés ont un rapport avec la nature, bien sûr. À vous de reconnaître l'artiste qu'il s'agit. On commence avec un chanteur.
Moi, j'ai la réponse sous les
yeux.
Alors,
Didier.
Il n'est pas question.
Alors, c'est un certain Christophe. Eh, hey, c'est pas lui.
Bien sûr,
il petit Christophe Manu. Pahé. Et je crois qu'il vient même de Corse aussi. Oui, oui.
Oui. Et oui, Christophe Mahé qui interprète la chanson « Il est où le bonheur ?»
Tout à fait.
Alors, c'est pas le cas du titre de cette chanson que vous entendez. Cette chanson est intitulée « Nature ».
Ah, bah, faut connaître, non, faut savoir.
Et oui, tout est dans le thème. Chanson extraite de l'album de Christophe Mahé, « On trace la route », sorti en mars 2010. Un album qui s'est écoulé à plus de 680 000 exemplaires et certifié disque de diamant en novembre 2010. On va écouter un peu cette chanson.
Pas question de zèle.
On enchaîne avec un chanteur et danseur américain.
C'est pas le regretté Michael Jackson.
Tout à fait, petit Manu.
Qu'on a fait sa carrière en solo, mon cher Kevin.
Oui, enfin, tout à fait. Oui, oui, bien sûr, oui.
Je reconnais, voilà. Et puis il dansait vraiment la danse. Il avait pas froid aux yeux, quoi.
Michael Jackson, qu'on surnommait le roi de la pop.
Exactement.
Et oui, Michael Jackson, qui nous a quittés le 28 juin 2009, avec ce titre, Human Nature, qui veut dire, petit Manu.
Human Mature, l'homme de la nature.
Nature humaine.
Nature humaine,
nature
voilà.
Humaine plutôt,
voilà.
Oui.
Nature humaine, voilà. Merci, Camille, merci.
De rien.
Oh, bah, je t'en prie.
Alors cette chanson de 1983 fait partie de l'album Thriller, qui est l'un des plus connus du répertoire de l'artiste notre regretté Michael Jackson. On va écouter un peu cette chanson, bien sûr. Passons maintenant à un groupe de rock.
Ah, voilà.
Alors là, le rock.
Faut écouter.
Alors, le nom du groupe commence par Imagine.
Imagination, c'est pas
non,
ça
non, non.
Bon, moi, je me suis trompé.
Suivi d'une espèce qui n'existe pas, mais qui vole et qui crache du feu.
Ça commence par un D et ça finit par on.
Bah, des on qui volent, qui crachent du feu, qui n'existe pas.
Imagine un dragon.
Oui, oui, Imagine Dragons.
Ouais.
Précisément.
Je sais pas comment on l'a dit, mais on a pu le dire, le titre.
Avec cette chanson intitulée Not Your World, chanson extraite de l'album Origins du groupe sorti en 2018, qu'on va écouter bien sûr. Je vous propose maintenant d'écouter une chanson que seul Didier connaît.
Ah, ah bon ?
Alors là,
oh là là.
On va la découvrir tous ensemble.
C'est pas des beautés.
Alors, le chanteur s'appelle Juan Stewart, avec le titre Solen Somewhere Else. C'est une chanson que m'a proposé Didier, alors je te laisse la présenter.
Ah ouais. On fait tout en direct, hein. On vous rassure.
En direct.
En direct,
oui, en direct.
En direct.
Ben, ça parle d'un loup solitaire qui traverse les montagnes mystiques.
Quoi ?
Et il est en quête de trouver son meilleur ami. Pour le ramener chez lui.
C'est symbolique en tous les cas, ça ressemble en tous les cas.
Voilà, c'est un groupe qui s'appelle Cosmic Jones et le chanteur s'appelle Juan Swart.
Comme quoi on en apprend tous les jours.
Voilà, donc c'est une chanson sur.
Bah la nature
Qui s'appelle Somewhere Else.
Somewhere Else.
Voilà.
Merci pour cette jolie découverte, Didier.
Mais de rien.
Ouais. Ah, par contre. contre, Kevin, j'ai une de mes chansons. T'as pas dit?
On va voir après.
D'accord, y a pas de problème.
Oui, on termine. On, verra, ouais. On termine juste après. En douceur avec un chanteur.
Juste une somme elle, ça voudrait dire quelque part ailleurs.
Ah ouais, ouais. Voilà. C'est
parce
vrai.
Que donc l'ailleurs en termes
quelqu'un,
de.
Quelqu'un quelque part, ouais.
C'est très important ailleurs. Ouais. Hein.
Bah oui, c'est important de préciser.
Ça parle d'un loup. D'un loup.
Et on va terminer en douceur avec un chanteur français toujours actif, toujours vivant.
C'est un seul petit Manu connaît.
Tu vas, on va l'entendre.
Il est très connu.
Oui, oui, sans doute, mais.
Toi qui sais chanter avec.
C'est pas Michel Jonas ?
Non, il s'appelle Hugues.
Hugues, mon frère !
Oui,
oh petit là là.
Oui, il est pas encore mort, lui.
Ah non, non.
Non, il a 90 ans, je crois.
Tout 90 à fait. C'était son anniversaire dernièrement,
c'est
pas joie.
C'est bien cela.
86, ouais, ouais,
il évidemment. Les fait pas tellement, c'est vrai.
Ah non, puis il est encore jeune. Non, puis oui. Hugo Frey, quoi.
Et oui, Hugo Frey avec cette chanson La Terre est si belle, c'est le cas de le dire.
Ah oui.
Chanson extraite de l'album du même nom, La Terre est si belle, sorti en 1991. C'est d'ailleurs dans cet album que figure la chanson Santiano que vous connaissez tous, j'imagine.
Oh, oui. Complètement. Puis il y avait aussi Céline aussi.
Oui. Céline. Mais d'ailleurs, Santiano, tu veux la chanter, petit Manu?
Oh non, 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 non. En tout cas, moi je veux te dire, Kevin, moi je veux te faire un compliment. Oui. Parce que tu dis que tu as des chansons, on n'entend pas, et tu as l'air de nous faire découvrir. Moi je te tire mon chapeau. Hein. Je ne sais pas où tu fais, mais tu as un don. Si personne te l'a dit, Kevin, tout artiste à ma juste valeur, je te tire mon chapeau.
Merci, petit Manu.
Ah bah c'est un compliment.
Et sur ce, continuons à prendre soin de notre nature.
D'accord.
Merci à tous.
Et sinon, il y a une chanson que j'aurais ajoutée que tu n'as pas dit, parce que c'est la mienne. Moi, je chante en slam. Une chanson que j'ai faite, je vais dans des églises évangélistes. C'est un pasteur qui prêchait, il faisait avec la nature.
J'aimerais bien voir ça.
Moi, je voudrais juste quand même parler d'une très belle chanson. Parce qu'on en parle un petit peu de Jean Ferrat en ce moment.
Ah, oui.
Qui est, mon Dieu, que la montagne est belle. Voilà, c'est
vrai.
Parce qu'il a chanté beaucoup la nature. Tous les poètes aussi et la nature. Voilà.
Oui.
Comme Léo Ferré aussi, qui a chanté beaucoup les poètes et Jean Ferrat aussi. Ouais. Voilà.
Ouais, j'aime mieux la chanson proposée par Camille que la tienne.
Voilà, ma chanson, si vous voulez aller voir.
Pourquoi
on ne sait jamais. Si vous voulez aller voir, allez sur YouTube, Emmanuel Plequin, Alex, un futur pasteur.
Mais sinon, allez écouter Mon Dieu, que la montagne est belle par Jean Ferrat, c'est vraiment très très beau. Ça,
oui.
ça nous emmène assez haut.
Et même, on peut même dire qu'il chantait toujours avec Isabelle Aubray. Ils avaient une grande complicité.
Oui. Alors, en attendant, quelle chanson voulez-vous écouter? Est-ce qu'on écoute Hugo Frey?
Bah, pourquoi pas
Mais
Dragons,
Michael Jackson, Christophe Maé.
Voilà, on a le choix. Qu'est-ce que tu veux écouter?
Je veux bien écouter Michael Jackson, que j'adore.
Michael Jackson.
On va écouter Michael Jackson.
J'aime beaucoup l'album Thriller, en fait.
Voilà.
Ah, oui. Human Nature dans Big Bang.
Voilà.
Why does he do it that way? I like living this.
Il est 20h33 et vous venez d'écouter Human Nature de Michael Jackson dans Big Bang.
Et je vous le disais, Ronan II est notre petit nouveau. Il nous parle de la nature, mais sous un angle politique. C'est nouveau dans Big Bang.
Station.
Station.
Ah, la nature, vaste objet politique. Et pour faire un peu original, dans cette première chronique, nous n'allons pas l'aborder sous l'angle de l'écologie. Je pense que tout le monde a déjà un avis sur le sujet. Et comme Petit Manu a fait un excellent travail journalistique pour vous expliquer les contours de cette fête, nous allons, nous, l'aborder sous l'angle du droit. Eh oui, on peut faire une émission de divertissement et parler du droit de façon pour apprendre des choses. En effet, saviez-vous, jeune auditeur, que la nature est citée comme dotée de droits dans la constitution équatorienne ? On peut lire dans cette dernière, comme nous, nous avons notre propre constitution, que la nature, ou Pachamama, a le droit d'exister, de persister, de maintenir, de régénérer ses cycles, structures, fonctions et processus vitaux. D'accord, c'est cool! Ça nous fait une belle jambe, merci Ronan! Mais qu'est-ce que cela entraîne? Eh bien, cela signifie, jeune auditeur impatient qui est dans ma tête et que je fais parler, que la nature a des droits, en Équateur, et que, comme les droits de l'homme, ils sont inaliénables, et qu'on ne peut pas l'exploiter, la changer, ou même la détruire à notre convenance. Et depuis cette constitutionnalisation, d'autres pays ont suivi cet exemple. La Bolivie a promis une loi de la terre mère qui lui accorde des droits au même titre que les droits de l'homme. L'Inde a reconnu des droits à des rivières ou à des glaciers. Et en Nouvelle-Zélande, la rivière Whanganui est considérée comme un sujet de droit. Ainsi, dans ces pays, le gouvernement, les gardiens de ces endroits, ou des citoyens, peuvent aller devant les tribunaux pour défendre les droits de ces lieux naturels en cas de dommages, de pollution. Bien sûr, comme tous ces droits, ils ont des limites. Et l'exploitation pétrolière ou la déforestation gagne sans doute plus de combats que ces protecteurs de l'environnement. Néanmoins, aujourd'hui, una declaración universal de los derechos de madre tierra, merci pour l'accent espagnol, une déclaration universelle des droits de mère nature, a vu le jour et a été signée par plus de 850 000 personnes à travers 122 pays et fut présentée devant l'Organisation des Nations Unies fin 2018. Et donc, Ronan, et donc ? Et donc, jeune auditeur impatient, cela signifie que comme la déclaration des droits de la femme écrite par Olympe de Gouges en 1791, et pour laquelle, entre autres, elle a eu la tête coupée, cette déclaration produit du droit et des devoirs, ne cesse que par son existence, la jurisprudence, la tradition, et que les êtres humains qui habitent sur cette planète ne peuvent plus faire comme s'ils ne savaient pas, et détruire leurs convenances, rivières, forêts ou lacs. Vous pouvez bien entendu retrouver la Déclaration universelle des droits de la Terre-Mère sur les réseaux sociaux de Big Bang Station, Facebook et Twitter.
Merci Ronan II.
Et à propos d'idées, je ne sais pas ce que vous avez pensé, mes chers amis, mais en tous les cas, je trouve que Ronan II, déjà je voulais te remercier, mais Didier, je trouve que...
Pas Roland.
Hein. Non, Ronan II, mais je trouve que ça ne m'étonnerait pas s'il a des talents de comédien, et peut-être il serait encore mieux humoriste. Hein. Oui, il m'a l'air très délireux. Bon, en tout cas, c'est très, très gentil, Ronan II.
Ronan
II. Et je pense qu'il a une âme d'artiste. Hein. Il est très talentueux. Je ne sais pas où il vient, mais Anguille Soroche.
En tous les cas, oui, son discours est assez pertinent.
Hein, ah parce oui,
que c'est vrai que ça, c'est vrai que c'est un problème politique. Ah,
Camille,
hein, quand on voit.
Tu penses la même chose que
en
moi.
En Amazonie, quand on parle d'écocide maintenant,
malheureusement,
etc.
Oui.
Voilà, donc effectivement, il serait temps que les hommes politiques... voilà.
Et avec tout ce qui brûle en ce moment, bah
ouais,
en plus.
Surtout
en plus
aux États-Unis en ce moment. Non, mais franchement, il n'a pas froid aux yeux. Hein. Et il est une audace. Bon, en tout cas, je te remercie beaucoup. Et cher ami, good luck. J'ai envie de répondre.
Et c'est l'heure de souhaiter les anniversaires de nos amis Facebook. Et si vous êtes né aujourd'hui, bon anniversaire à Sam Lanoir, qui a 37 ans, à Tanisha Jena Iverson, 33 ans, Isabelle Gendo-Patrice Larue, 70 ans, et Siam Saber, 36 ans. Bon anniversaire à toutes et tous.
Bon anniversaire. C'est curieux parce que Camille, tout à l'heure, tu as parlé de Guillaume Apollinaire. Eh bien, aujourd'hui, c'est la Saint-Apollinaire. Alors, je ne sais pas si c'est le même nom. Je ne sais pas comment, bien s'il y en a beaucoup, mais c'est la Saint-Apollinaire. On les fête et bon, ça existe. Messieurs, jeunes hommes, on pense à vous.
Bon anniversaire.
Bon anniversaire, bien évidemment. Quoi.
Et si vous nous écoutez le dimanche sur l'une de nos radios partenaires, bon anniversaire à Yann Alexander, 38 ans, que tu connais.
Ah bah, formidablement. Non, c'est quelqu'un d'une grande gentillesse, d'un grand professionnel. Et c'est curieux parce que même dans ses chansons, moi je le connais, il parle de la nature, il vient du Gabon. Et je peux même vous dire, il a un label, il donne la chance à s'exprimer. Yann, à très bientôt. Et j'ai même fait une chanson pour lui, je suis le seul européen, l'ami Jean. Et ben, j'ai eu l'inspiration. Je parle de Jeanne Alexander. Allez voir sur Facebook, YouTube. Et ben, j'ai fait une chanson pour notre cher ami Yann. Très bon anniversaire.
Et bon anniversaire aussi à Jonathan Ayot, 44 ans, à Bidas Tarak Yaked, 49 ans, à Marilyn Clarembo, 56 ans, Tikos Dream Gobert, 61 ans, Christophe Nagéon, 69 ans, Mélanie Gay et Jérémy Hoftalan, 28 ans. Bon anniversaire à toutes et tous.
Bon anniversaire.
Happy birthday. Et il y en a une qui a du talent, la jeune Greta Thunberg.
Oui,
on en parlait.
Elle a du talent et du culot surtout.
Tout à l'heure.
Ah bon, bah c'est ce qu'il faut.
Eh bah, ben ça tombe bien, c'est la chronique de PA.
Il teste. Ouh là là, c'est dur à dire. Appli, objet high-tech.
À quoi elle sert à rien alors?
Il y a une application justement pour ça qui existe.
Moi j'ai téléchargé Yuka, je voudrais juste faire un test sur Petit Manu.
Ah bah alors c'est là, rouge. Très mauvais hein.
Non. C'est rouge.
Alors oui, ce soir, donc comme je vous l'ai annoncé donc tout à l'heure, donc Didier, comme tu me l'as demandé, eh bien ce soir, je vous parlais d'un documentaire qui va sortir très prochainement, dans 2 mois exactement, donc autour d'une figure incontournable de l'environnement, de l'écologie. C'est une militante, elle est jeune et vous la connaissez tous, vous l'avez forcément vue dans les médias. Il s'agit de Greta Thunberg. Alors tout le monde la connaît, c'est une adolescente suédoise qui milite pour l'environnement, qui sensibilise tout le monde autour du changement climatique, de la crise climatique. Et donc cette année, il va y avoir pas un biopic, mais un film documentaire qui va sortir autour de la jeune adolescente et qui s'intitule I'm Greta, donc en gros qui veut dire je suis Greta. Voilà, donc ce qui prouve aussi que j'ai fait anglais LV1 pendant longtemps à l'école. Et donc I'm Greta est un film documentaire qui a été réalisé par le réalisateur suédois de 29 ans, Nathan Grossman, et donc qui a suivi pendant plusieurs mois, pendant des mois et des mois, la vie, le parcours et l'ascension fulgurante de Greta Thunberg. Donc c'est un film documentaire qui dure un peu plus d'une heure et demie et qui a été présenté en avant-première à la Mostra de Venise, donc c'était le 4 septembre dernier, donc c'est vraiment tout récent. Donc voilà, donc il présente Greta Thunberg, donc qui est devenue en l'espace de 2 ans une figure incontournable du militantisme écologique. Donc il a suivi donc dans sa vie privée, dans son intimité, donc avec sa famille, il a notamment raconté, évoqué ses débuts, le début de ses actions, notamment il y a 2 ans en dehors du Parlement suédois, la préparation de ses discours, le temps libre notamment qu'elle passe pour évacuer son stress, et puis aussi des passages où elle évoque notamment le syndrome auquel elle est atteinte, le syndrome d'Asperger, et puis aussi quelques petits moments de sa vie, notamment où elle a eu le sentiment d'être mal aimée à l'école. Donc voilà, donc c'est vraiment un film documentaire pour vous plonger au cœur de la vie de Greta Thunberg. Dans le film documentaire, ce qui est mis en avant également, eh bien, c'est la façon dont elle milite, les causes, les discours, la façon aussi de sensibiliser les gens au changement climatique, puisqu'en ce moment, voilà, on en parle beaucoup avec ce qui s'est passé notamment en Amazonie avec les feux de forêt, avec les incendies. Et puis, le réalisateur a voulu découvrir aussi, a filmé notamment la traversée de l'Atlantique pendant 2 semaines pour rejoindre New York, parce qu'en fait, pour se rendre à New York au congrès, au sommet mondial du climat, eh bien pendant 2 semaines elle a traversé l'Atlantique sur un voilier, donc zéro carbone, donc pour éviter de prendre l'avion. Et puis on la voit notamment aussi avec sa rencontre avec Emmanuel Macron, avec le pape François. Vraiment c'est un documentaire vraiment qui la met en avant. Il n'y a pas de leçon morale qui est donnée, c'est vraiment on est plongé au cœur de sa vie. Et donc encore une fois, donc il a été projeté le 4 septembre dernier donc à la Mostra de Venise. Alors donc malheureusement donc Greta Thunberg n'a pas pu venir, mais par contre elle est intervenue, elle a fait une brève apparition à distance depuis l'application Zoom, donc pour donner son avis, pour réagir à la projection du film. Et le film donc qui sera disponible sur la plateforme américaine de streaming Hulu, donc qui sera disponible à partir du 13 novembre prochain. Et le trailer, donc la bande-annonce, est déjà disponible sur YouTube, donc pour vous donner un petit aperçu de ce que ça pourrait être. Voilà.
Merci PA.
Mais on dit bonjour PA, un petit coucou amical. Mais où est passé PA? Où est passé PA? Oh, je rigole, hein. Je voulais tenter l'inspiration. Coucou PA, de bonne
chose. Petit Manu, one point. Tu vas faire mieux pour les infolites?
Bon, on va essayer. Qui s'en tient à rien?
Les questions que personne ne se pose.
Qu'avait cet homme de particulier dans sa veine?
Des excréments.
Quelque chose de sexuel?
Non. Qui vous les expose?
De la merde.
Non.
Décidément.
De l'urine.
Non.
Allez, on continue au Canada. Pour lutter contre le coronavirus, qu'a suggéré la responsable de la santé publique, à votre avis?
Alors, il y a quelque chose avec les masques, mais...
Oui, de porter le masque.
Mais...
Mais quand?
Tout le temps ou... Oui, mais il y a quelque chose...
Alors, elle a... Préciser un des moments.
Aux toilettes?
Non. C'est chez...
Chez les gens?
Chez les gens?
Peut-être le matin, même en prenant le petit déjeuner, quoi que ça, c'est pas facile. Non, non.
Quand les gens mangent.
Pas sous la douche, quand même.
Quand les gens sont chez eux, effectivement, parce qu'on fait pas ça dehors. Qu'est-ce qu'on peut... Où les gens sont assez proches?
Un endroit où les gens sont assez proches.
Oui.
Dans un bar?
Dans un plumard?
Oui, ah bon donc bravo Camille.
C'est pendant, bien, bravo.
Pendant les rapports sexuels, elle préconise le port du masque. Elle précise qu'un rapport sexuel avec quelqu'un qui ne fait pas partie de votre ménage, il faut le porter.
Ouais.
Et elle ajoute même que les actes sexuels les moins risqués sont ceux où vous êtes seul. Je trouve ça drôle.
Bah ouais, c'est original. On peut dire qu'elle a une certaine originalité, une certaine façon de voir les choses.
Pour une responsable de la santé, ça change de responsable de la santé en France.
Complètement. Hein. C'est vrai qu'ils sont un peu plus délurés, mais...
Voilà, c'est dit.
Bah ouais, mais enfin, pourquoi pas. Hein.
Allez, ouais. On passe à Singapour. Que se passe-t-il pendant une séance de ciné, à votre avis?
Oh là là.
Les gens mangent du pop-corn.
Non, ils mangent pas. Il s'est passé quelque chose...
Il n'y a pas eu un incendie?
Non, mais c'est du même genre.
Ah,
c'est un accident.
C'est pas une jeune fille qui a accouché?
Non.
Non.
C'est pas les spectateurs en cause. C'est le cinéma lui-même.
L'écran a pris feu?
Non, c'est pas du feu. Ça concerne le bâtiment.
Il y a eu une inondation?
C'est pas de l'eau.
Il n'y a pas un mur qui s'est écroulé?
Eh oui, c'est le plafond qui s'est écroulé sur les spectateurs.
Ah, j'espère qu'il n'y a pas eu trop de...
Il y a eu deux blessés quand même.
Quand même. Oh
là là. Et voilà, le plafond s'est écroulé. Ça fait quand même un drôle d'effet. Bah, c'était pendant le film Tenet que j'ai vu.
Je suppose qu'on doit avoir peur. Il ne faut pas être cardiaque. Mais...
Ah oui, ça tombe bien pendant Tenet, effectivement. Bah,
voilà, ça tombe bien. Moi, je l'ai vu en 4DX. C'est donc le cinéma avec des effets spéciaux, le siège qui bouge et tout. Je vous assure que pendant 2h30, c'est pas très drôle.
Non.
Ah ouais, d'avoir le siège qui bouge, vous avez l'impression qu'on vous donne des coups de poing dans le dos.
Carrément.
Ça va 10 secondes.
T'as une mauvaise sensation, quoi. Tu te sens mal.
Pendant 2h30, moi, je trouve pas ça. T'as de la fumée dans le visage, t'as du vent, t'as de l'eau. On te jette de l'eau.
Carrément.
Bon. Ah ben. J'ai pas trouvé ça.
Mais dis-moi, Didier, il faut espérer que le cinéma ait une bonne assurance parce que pour tout payer comme ça, quoi, c'est peut-être les assurances, les charges qu'ils vont payer, mais enfin.
À Singapour, je sais pas.
Enfin, on sait pas. Affaire à suivre, mais...
Allez, on termine par la Grèce. Qu'a secouru un ferry?
Des réfugiés?
Non. C'est un être humain?
Ouais.
C'était pas des réfugiés.
Un être humain?
Oui.
Quelqu'un qui...
En pleine mer, donc.
Un président désespéré qui s'est jeté à l'eau?
Non.
Ou quelqu'un qui
s'est... C'était pas un adulte.
Un enfant qui s'est... Ah, pas un enfant.
Alors, c'était un enfant. C'était une toute petite fille de 4 ans, environ.
Qui a pas fait une fugue?
Non,
voulu...
mais qu'est-ce qu'elle faisait en pleine mer?
Elle voulait nager, mais...
Elle est tombée d'un bateau.
Ouais, voilà, c'est ça.
Non, elle n'est pas tombée d'un bateau, elle était sur une bouée
elle
licorne.
Elle voulait caresser des dauphins?
Non, elle était sur une grosse bouée licorne.
Bah, elle a peut-être lancé...
Elle était donc avec ses parents à la plage.
Bah, elle a été emportée par le
courant. Voilà, elle était emportée, elle était sur sa bouée, elle était vraiment emportée.
Par elle a peut-être appelé une bouteille à eau secours à la mer, comme ça, pour...
Non, c'est le ferry qui l'a recueillie. Ça fait drôle de recueillir une petite fille en pleine mer de 4 ans avec une grosse bouée de licorne.
Elle n'était pas traumatisée, elle devait avoir froid.
Assez choquée, bon, elle va bien.
J'imagine.
Hein, mais assez choquée quand même.
Ouais, ça doit marquer, surtout pour une jeune fille.
Non, petite fille.
La petite fille, en plus, une enfant.
Alors, la nature, c'est beau. Mais c'est fragile.
Ah, complètement.
C'est pas Camille T qui vient nous dire le contraire. D'ailleurs, la bactérie Xylella fastidiosa, est-ce que tu sais ce que c'est, Camille?
Non, justement, j'aimerais bien le savoir. Moi, je connais celle qui fait des ravages dans le buis et dans les orbes, mais je ne connais pas leur nom. Peut-être c'est ça, je ne sais pas.
Eh ben, les explications de Charles Manceau, directeur scientifique de la santé végétale à l'ANSES.
Plantes en danger, la minute prévention de nos végétaux.
Xylella fastidiosa. Sous ce nom latin se cache une redoutable bactérie qui menace la survie de plus de 200 espèces végétales du bassin méditerranéen. Charles Manceau, bonjour. Vous êtes directeur scientifique de la santé végétale à l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Qu'est-ce que Xylella concrètement ?
Xylella fastidiosa, c'est une espèce bactérienne qui provoque des maladies sur de nombreuses plantes. Et elle se transmet par un insecte qui pique le vaisseau de bois pour se nourrir et qui va transmettre ainsi la bactérie de plante à plante. Elle a été détectée la première fois sur vigne, en Californie, où elle a provoqué une épidémie très très importante au 19e siècle. Et ensuite, on l'a détectée sur de nombreuses plantes telles que les agrumes au Brésil, le café au Costa Rica, en Amérique centrale. En 2013, en Italie, on a détecté cette bactérie-là. Ensuite, en Corse et sur la Côte d'Azur. En 2016, on a détecté la bactérie dans les îles Baléares. Puis en 2017, sur la péninsule ibérique continentale, près d'Alicante, dans un verger d'amandiers. Donc on a des voies d'introduction en Europe multiples qui ont abouti à des foyers divers dans les principaux pays méditerranéens européens que sont l'Italie, la France et l'Espagne.
La bactérie Xylella fastidiosa est un danger mortel pour plus de 200 espèces végétales. Ne faites pas voyager les plantes pour ne pas propager la maladie.
Plus d'informations sur le site agriculture.gouv.fr. Un message du ministère chargé de l'agriculture.
Camille, on va donner les dates, comment on fait pour te contacter.
Oui, une dernière chose, vous m'avez demandé comment on peut introduire la nature en ville. Il y a un truc qui est assez rigolo à faire, c'est des bombes à graines.
Voilà. Les bombes à graines.
Les gens peuvent regarder, il y a plein de tutos sur YouTube et compagnie. Il y a plein d'associations qui font ça.
D'accord.
Et nous, d'ailleurs, pour la fête de la nature, à Saint-Ouen, qui aura lieu le samedi 10 octobre, nous allons faire des boules de graisse pour les oiseaux, en fait.
Ça consiste à quoi, à peu près, des boules ?
Boules de graisse, c'est-à-dire qu'on met dans de la margarine des graines, qu'on met autour d'une pomme de pin, par exemple, et après on les attache et on peut les mettre dans les arbres pour les oiseaux. Et en hiver, ils peuvent, disons, avoir du gras et de la nourriture.
Et comme ça, ils peuvent se nourrir.
Absolument, voilà.
Non, mais c'est bien, c'est bon.
On a fait de la nature à Saint-Ouen, au jardin éco-poétique du 16 bis, à Saint-Ouen-sur-Seine. Donc, nous, nous avons plusieurs ateliers. Je ferai la visite du jardin éco-poétique où je vais présenter le concept du jardin, l'oasis nature dont je vous ai parlé tout à l'heure et les artistes de street art. Si j'ai le temps, je dirai un mot des artistes tout à l'heure, qui sont les artistes dans ce jardin. Ensuite, nous allons faire une initiation au compostage par un spécialiste de pleine commune, fabrication de boules de graisse pour les oiseaux l'hiver et des plantations vivrières on va mettre des framboisiers, des plantes pour l'hiver et on va semer ce qu'on appelle de l'engrais vert, de la moutarde et de la facélie. Ça veut dire qu'en fait, on sème de l'engrais, ça pousse et ça occupe la terre, parce que la terre, il faut qu'elle soit tout le temps occupée, il ne faut pas qu'elle soit nue. Et après, au printemps, on coupe et ça nourrit la terre et ça permet de faire de l'engrais. Et ensuite, on va faire un atelier de concertation avec les enfants en vue de faire la création d'une marelle dans la cour du 16 bis sur le thème d'une marelle autour de la nature.
D'accord, on donnera le site internet et tous les liens sur notre site.
Sur votre site, voilà, je vous donnerai les liens pour consulter tout ça.
Et on va terminer par un peu de culture avec Vincent.
De la culture dans Big Bang.
C'est cela, oui.
Big Bangienne, Big Bangien, cher auditeur, mon seul bien, le jeu vidéo est le sujet du jour, mais la culture, elle, vivra toujours.
Ah, c'est pas mal, quoi. Ah.
Big Bangienne, Big Bangien, cher auditeur, mon seul bien, la nature de loin égale la culture, de leur association tient nos vies, soyez-en sûrs. Résumer ce que les hommes ont dit de la nature demande bien de l'ardeur. Je te demanderai donc, auditeur, d'avoir quelque indulgence sur mon labeur. Aux érudits, je m'excuse d'avance en ce que mon exposé aura de lapidaire, que mes modestes bafouilles vous procurent joie plutôt que colère. La dualité entre culture et nature est au moins millénaire. Leur lien dans la mythologie est un petit insecte en voie de disparition bien connu de toi, cher auditeur. Et oui, l'abeille, par le miel qu'elle produit, adoucit les mœurs des hommes et favorise la création de la culture, c'est-à-dire de la pensée dans la mythologie grecque. Symbole de pureté et de douceur, l'abeille permettait aux Amérindiens d'entrer dans le domaine de la culture par l'imitation de leur danse. Cette vision de la nature comme modèle et excès à tempérer est reprise chez les romantiques allemands. Le peintre Friedrich et son aîné Goethe se représentent la nature comme une manifestation du divin et donc un moyen d'accéder au spirituel par un chemin intérieur ardu. La nature dépeinte selon ses questionnements intérieurs et non un souci de réalisme est pleinement idéalisée et bien forte face aux hommes, fragiles par essence. Et pourtant, la nature peut aussi mener à l'harmonie. La littérature comme la poésie nous livrent bien des témoignages de ce lien viscéral de l'homme aux forces telluriques. Tenez par exemple Rousseau. Il est l'illustration du philosophe accompris et un brin paranoïaque, quoique avec raison. Et pourtant, il n'a jamais été aussi heureux que chez Madame d'Épinay, une demeure loin des hommes et au milieu des bois. Et l'on voit Rousseau évoquer avec mélancolie ces jours rapides mais délicieux que j'ai passés tout entier avec moi seul, avec les oiseaux de la campagne et les bûches de la forêt, avec la nature entière et son inconcevable hauteur. Tel Jacques Brel avec son amour, il fait de la nature une divine reine quand il reprend les mots de Jésus dans les évangiles, comparant la beauté des lys des champs à la parure du grand roi Salomon. La majesté des arbres qui me couvraient de leur ombre, la délicatesse des arbustes qui m'environnent, l'étonnante variété des herbes et des fleurs que je foulais sous mes pieds, tenaient mon esprit dans une alternative continuelle d'observation et d'admiration, et me faisaient souvent redire en moi-même « Non, Salomon, dans toute sa gloire, ne fut jamais vêtu comme l'un d'eux ». La fin de sa lettre à son ami et protecteur, Monsieur de Malesherbes, sonne, selon nos points de vue, comme un manifeste misanthrope ou un hymne à la nature. Je m'attendrissais jusqu'aux larmes sur les vrais plaisirs de l'humanité, plaisirs si délicieux et si purs et qui sont désormais si loin des hommes. Un exilé du sud-ouest venu s'aérer en Bretagne ne peut que finir par le fantastique chroniqueur, l'amoureux éternel de la forêt des Landes, François Mauriac. Comme le grand écrivain qu'il est, il parvient en quelques phrases à nous plonger en enfance, et surtout dans les Landes. Les Landes, souvenirs pour les habitués, découvertes pour les néophytes. Enfant, nous ne connaissions guère que les Landes. L'être collectif, dénommé « les garçons », et dont je n'étais qu'une parcelle, avait décidé que, hors le pays des pins, du sable et des cigales, il n'était pas de vacances heureuses. Ainsi sont entrés en moi pour l'éternité ces étés implacables, cette forêt crépitante de cigales sous un ciel d'airain. Je te laisse sur ces descriptions oniriques, cher auditeur, et surtout prends soin de toi. Ce week-end, c'est repos. On en a tous besoin.
Merci Vincent, et on termine avec les films de Ronan.
Un petit ciné ?
Vous voulez un whisky ?
Ou juste un doigt ?
Vous voulez pas un whisky d'abord ?
Il y a un monsieur très mal poli qui a téléphoné, il voulait enculer Thérèse.
Oui, mais c'est un ami.
Ah ben ça va alors.
Ah, la nature ! Vaste sujet, cinéma ! Vaste objet de cinéma ! Mille fois mis en scène par les artistes qui font le 7ème art ! Entre L'Enfant Sauvage de François Truffaut de 1969, grand classique du cinéma français, qui raconte l'apprentissage d'un enfant retrouvé dans la forêt, ou le tout de suite devenu culte Into the Wild de Sean Penn, et presque tous les films d'animation du japonais Miyazaki, Princesse Mononoke, Mon voisin Totoro, Ponyo sur la forêt, le The Revenant avec DiCaprio, le 127ème heure de Danny Boyle qui raconte l'histoire d'un homme le bras bloqué pendant 6 jours par un rocher. Il y a beaucoup de films qui traitent le sujet du rapport de l'homme à la nature. Aujourd'hui, par choix purement arbitraire, nous allons nous intéresser à deux films, parce qu'ils sont bons, parce que je les ai vus, et c'est toujours mieux de parler de films qu'on a vus. Le premier dont je vais vous parler est La Tortue Rouge, sorti en 2016, c'est un film d'animation franco-belge japonais, rendu entre autres par le studio japonais Ghibli, qui a obtenu le prix du jury Un Certain Regard au Festival de Cannes. Il est réalisé par un néerlandais, Michael Dudok Devit, dont c'est le premier long métrage. Inspiré par le mythe de Robinson Crusoe, La Tortue Rouge raconte l'histoire d'un homme échoué sur une île déserte. Il tente de s'échapper plusieurs fois, sans succès. Il vit seul sur cette île pendant plusieurs années, jusqu'au jour où il rencontre une tortue rouge avec laquelle il va vivre une histoire d'amour. Alors déjà, je vous invite à le regarder par n'importe quel moyen, car c'est un film poétique, beau et dessiné à la façon d'une véritable bande dessinée. Le rythme y est bon, quoiqu'il peut avoir quelques longueurs du fait qu'il soit sans dialogue et que ce soit plutôt un film de contemplation. Pour le second film sur la nature, je vais vous conseiller le film de l'ancien ministre de l'écologie, Nicolas Hulot, Le Syndrome du Titanic, sorti en 2007. C'est un documentaire qui enchaîne les belles images et la voix off de Nicolas Hulot, qui défend le propos qu'il faut changer de système pour protéger l'environnement. D'une durée d'1h30, il me semble plus accessible que le film d'Al Gore, Une vérité qui dérange. Je mettrai d'ailleurs une mention spéciale pour la musique. Le Syndrome du Titanic est évidemment un documentaire qui fait écho à l'actualité et au débat sur l'environnement, dont les enjeux et les problématiques sont partagés par l'ensemble de la population actuellement, mais il date de 2007, donc je pense que c'est un film à voir. Et je vous invite d'ailleurs à le regarder par n'importe quel moyen et à continuer d'aller au cinéma.
Il y a eu le progrès, ce fameux progrès. Indéniable. Comme beaucoup, je l'ai pris longtemps pour un processus irréversible dans les mains duquel on pouvait s'abandonner. On a pu construire des routes en plein désert. On a su rapprocher des hommes. Je nous observe standardisés, quasi désintégrés. Je nous regarde balloter entre le virtuel et le réel que l'on n'arrive même plus à distinguer. Comment se résigner quand on voit que le superflu des uns est sans limite alors que l'essentiel des autres n'est même pas satisfait ? On ne doit rien admettre de tout cela, car c'est tout simplement inadmissible.
Vous pouvez retrouver les bandes annonces des films La Tortue Rouge et Le Syndrome du Titanic sur le Facebook et le Twitter de Big Bang Station.
Big Bang, c'est déjà fini.
Oh non.
Merci à Camille T, artiste scénographe de jardin, d'être venue.
Merci Camille.
Merci de m'avoir invité.
Et bravo.
Mais je voudrais dire avec Gaston Bachelard, qui est l'auteur de La Poétique de la Rêverie, il faut rêver parce que si on n'a pas de rêve, comment peut-on les réaliser?
Oui.
Et vite fait, je vais vous citer. Est-ce que j'ai le temps de
se rallier? Oui, tu as 1 minute 10.
C'est parfait parce que je voudrais vous parler d'un poète libanais qui s'appelle Khalil Gibran, qui est un poète mystique et qui nous parle vraiment très très bien de la nature. En automne, je récoltais toutes mes peines et je les enterrais dans mon jardin. Lorsqu'avril refleurit et que la terre et le printemps célébrèrent leurs noces, mon jardin fut jonché de fleurs splendides et exceptionnelles. Et je pense que ça résume assez bien la démarche qu'on essaye d'avoir. Et je vous, et vraiment rêver, continuer de rêver, parce que les jardins, ça fait rêver, ça nous emmène ailleurs. Et c'est vraiment important.
Tout à fait
merci
d'accord.
Merci. Moi, j'ai envie de t'applaudir. Ah ben, j'ai pensé, le cœur y est.
Okay, let's stop.